France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Lundi 27 mai, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale du 7-9 de France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une ce matin, Agnès, le nouveau Parlement européen avec la poussée contenue des populistes, la montée des écologistes et le recul des partis traditionnels. En France, le scrutin européen amplifie la bipolarisation, Rassemblement National, La République en marche. Et c'est Europe Écologie Les Verts qui monte sur la troisième marche du podium. On va voir ça pendant deux heures après les autres titres, Agnès.
Mariage en vue entre Renault et Fiat Chrysler pour créer le numéro 1 mondial de l'auto et puis le début de Roland Garros. Hier, victoire et gros succès pour Roger Federer.
Bonjour, bienvenue Léa Salamé.
Bonjour Nicolas.
Je suis très heureux de vous retrouver, votre invité à 7h50.
Quels enseignements tirer du scrutin d'hier, mais aussi comment expliquer que les instituts de sondage aient sous-estimé à la fois la participation et le résultat final de plusieurs formations. C'est un sujet qui va monter. Les réponses de Brice Teinturier, le directeur d'Ipsos Sopra Steria.
A tout à l'heure Léa, et de 7h15 à 9h, nous recevrons les responsables des différents partis politiques. Premier invité après le journal, Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts, puis se succéderont Olivier Faure pour le Parti Socialiste, Nicolas Bay pour le Rassemblement National, Pascal Canfin pour La République En Marche, et bien d'autres. Le détail au fur et à mesure de ce 7-9 spécial.
France Inter.
Plus vert, plus eurosceptique, plus morcelé, le Parlement européen est le reflet ce matin des changements politiques dans les 28 pays de l'Union européenne, à commencer par un recul donc des grands partis traditionnels. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante de France Inter à Bruxelles. Premier constat donc, la droite et la gauche classiques sont en baisse ce matin.
Oui, le PPE qui réunit les partis de la droite et du centre droit reste bien le premier groupe européen, suivi des sociaux-démocrates, mais ces deux familles politiques perdent chacune une quarantaine de sièges et elles deux, elles ne détiennent donc plus la majorité au Parlement. Le PPE aurait environ 180 élus, la gauche 150. Pari tenu pour les centristes et les libéraux qui vont s'allier, ils deviennent la troisième force politique du Parlement. Avec un peu plus d'une centaine de sièges, ils devraient pouvoir jouer ce rôle pivot auquel ils aspirent, mais il faudra compter avec le nouveau poids des Verts européens qui aligne 70 élus, une vingtaine de plus qu'en 2014. C'est une très forte progression. Du côté des trois groupes nationalistes et eurosceptiques, on comptabilise environ 170 sièges avec 22% des voix, mais ils ne siégeront pas ensemble. Le groupe Europe des Nations et des Libertés, dans lequel on retrouve la Ligue italienne et le RN, est crédité de 58 sièges contre 37 en 2014. Rappelons-le, ils veulent ouvrir à de nouveaux partis. La gauche radicale, enfin, affiche 38 sièges, elle en perd 14.
Et vous l'évoquiez, Angélique, ce sont donc les Verts qui réalisent la belle percée de ce scrutin.
Ah oui, et leur patron actuel au Parlement, le Belge Philippe Lamberts, ne cachait pas sa joie hier soir dans les couloirs du Parlement, mais aussi sa critique des partis qui, ces derniers temps, avaient verdi leur programme.
Ça n'est pas en saupoudrant quelques écologistes dans les familles politiques qui sont calés sur la mondialisation néolibérale qu'on fait la transition écologique et solidaire. À un moment, si vous voulez cette transition, eh bien, il faut voter pour la force politique qui en est la motrice. Je me rappelle de ce que Nicolas Hulot a dit lors de cette fameuse interview sur cette chaîne le 28 août dernier. Il a dit « Une des deux choses qui me manquait était un groupe politique fort sur lequel m'appuyer à l'Assemblée. » Eh bien, je peux lui dire qu'au niveau européen, pari réussi, nous aurons un groupe des Verts vraiment renforcé au Parlement européen et avec lequel il faudra compter.
Alors, les chefs des groupes politiques pro-européens entameront dès aujourd'hui des discussions autour d'un projet de coalition. Ils veulent aussi imposer l'un des leurs à la tête de la future Commission européenne et afficher un front commun sur le sujet avant le dîner de travail des chefs d'État et de gouvernement qui aura lieu demain soir.
Merci Angélique Bouin, en direct de Bruxelles ce matin pour Inter. Cette montée des populistes et des eurosceptiques, 33% pour la Ligue de Matteo Salvini en Italie, se vérifie également en France avec donc le Rassemblement National qui arrive en tête. Les listes sont menées par Jordan Bardella est crédité, selon les dernières estimations, de 23,31% des suffrages. Mais c'est bien Marine Le Pen qui entend profiter de cette victoire, Maxence Lambrecq.
Pendant que ses militants exultent en coulisses, Marine Le Pen serre dans ses bras Jordan Bardella. Elle renoue avec le champagne de la victoire. Mission accomplie, elle peut se relancer dans la course à l'Élysée.
La confiance que nous ont témoigné les Français en nous désignant comme le premier parti, mais surtout comme le mouvement de la future alternance, est un honneur immense.
La future alternance, déjà dans toutes les têtes, puisqu'au-delà de ce petit point d'avance, ce qui réjouit Marine Le Pen, c'est l'effondrement de la droite, LR à 8% et Nicolas Dupont-Aignan à 3%.
Je suis déçu
Nous sommes déçus. Comment ne pas l'être ?
La voie est donc libre. En interne, après cette victoire, l'hypothèse Marion Maréchal s'éloigne. L'ombre de son père aussi, puisqu'il quitte le Parlement européen. Mais les militants croient-ils en cette alternance ?
Oui et non, parce que je sais très bien qu'avec le Front Républicain, on n'arrivera à rien sauf miracle.
Et la diabolisation, qui est le grand barrage premier de Marine Le Pen, parce qu'elle s'appelle Le Pen, ça n'existe quasiment plus dans le pays déjà. Les gens sont passés à autre chose.
C'est le cas d'une partie des anciens électeurs de François Fillon, qui sont près de 20% à avoir voté RN hier.
Des électeurs de droite effectivement déboussolés, revers cinglant pour la liste Les Républicains de François-Xavier Bellamy, qui est donné à 8,48% des suffrages et un chef de parti sur la sellette. Plusieurs voix s'élèvent en interne pour demander le départ de Laurent Wauquiez. Avec 22,41% des voix, La République En Marche n'arrive pas à se placer sur la plus haute marche du podium. Mais le paysage politique français est désormais polarisé entre ces deux partis, RN, LREM. Dans l'immédiat, ce résultat permet au Premier ministre Édouard Philippe de rester à Matignon, Karine Bécart.
Édouard Philippe restera donc à Matignon. Avec les résultats serrés, enregistrés par La République En Marche, l'exécutif estime que le cap qui a été fixé peut être gardé. Autrement dit, le Premier ministre va pouvoir se concentrer dans les semaines qui viennent sur la mise en place du fameux acte 2 du quinquennat d'Emmanuel Macron. En réalité, jamais le président n'a souhaité se séparer de son chef du gouvernement, mais il aurait pu y être obligé. Sauf qu'en obtenant quasiment le même nombre d'eurodéputés que le parti de Marine Le Pen, il n'y avait définitivement plus de raison de devoir le sanctionner. Ce qui ne signifie pas pour autant que tout sera simple désormais pour Édouard Philippe. Au contraire, face à la pression lepéniste, Matignon devra réussir à afficher des résultats de plus en plus vite, tout en respectant une équation de plus en plus écologique. Bref, un nouveau chemin de croix pour l'ancien directeur des affaires publiques du groupe Areva.
Et la troisième force politique ce matin dans l'Hexagone, c'est donc Europe Écologie Les Verts, pari gagné pour Yannick Jadot qui avec 13,47% des suffrages déjoue les sondages grâce notamment à la mobilisation des électeurs les plus jeunes. Et c'est la gauche traditionnelle qui se réveille ce matin avec la gueule de bois. La multiplication des listes de gauche a comme annoncé affaibli le vote. 6,19% pour la liste PS Place Publique de Raphaël Glucksmann et 6,3% pour la France Insoumise, d'où l'amertume hier soir de Jean-Luc Mélenchon.
Notre résultat est très décevant. Il n'est pas à la hauteur de nos espérances, cela va de soi, et encore moins de nos efforts. Quoi qu'il en soit, ce résultat assure la présence des Insoumis au Parlement européen. Nous allons continuer la bataille contre les menaces écologiques qui s'avancent et les injustices sociales qui s'aggravent. Nous saurons assumer nos responsabilités. C'est l'heure des combats et des caractères. La France en a toujours disposé en abondance. Je forme le vœu qu'elle sache se manifester et se rassembler pour parvenir aux objectifs qu'elle doit se donner. Libérer une bonne fois le pays, le système de notre vie, de la pesanteur économique, anti-écologique qui pèse sur lui et des ombres que projette sur son destin l'extrême droite.
Et quant à Benoît Hamon, pari perdu avec un peu plus de 3% des voix, il n'ira pas au Parlement, le communiste Yann Brossat non plus.
Il est 7h09, Agnès, autre enseignement de ce scrutin européen, la participation.
En nette hausse en France, 51% de participation, du jamais vu pour un vote européen depuis 25 ans, participation en hausse partout en Europe, avec parfois des bons spectaculaires, comme en Espagne, où c'est l'exception européenne, les socialistes sont en tête, Julie Pietri.
Ils sont arrivés par petites grappes, quelques drapeaux sous le bras, une fois les résultats connus. Accroché à une barrière dans l'espoir vain de voir le Premier ministre, Maria, 81 ans, pleure de joie. C'est que nous sommes fatigués. Pourquoi le PP n'a pas gagné? On va voir si tu comprends. C'est un petit peu comme si toi et moi, on allait à une fête. Moi avec le portefeuille plein et toi avec rien. Moi je me suis bien amusée et toi tu as regardé. Eh bien c'est exactement ce qui s'est passé dernièrement en Espagne. La droite a laissé derrière elle des millions de pauvres. À ses côtés, Soledad, 61 ans, qui s'enflamme en prédisant à la gauche gauche espagnole un rôle de leader sur les questions sociales en Europe. Des socialistes qui, imagine-t-elle, impulseraient une politique où l'argent serait parti et où l'Europe accueillerait les réfugiés, ceux qui fuient leur pays à cause de la guerre et de la faim. En Espagne, l'extrême droite reste confinée. Le parti Vox entre bien au Parlement européen, mais avec 3 sièges seulement, en recul par rapport aux récentes législatives. Carlos, 40 ans, infirmier à Madrid, militant lui aussi, n'a cessé hier soir de consulter son portable et de se lamenter de la première place du Rassemblement national en France. Ça me fait une peine terrible. On a un proverbe en Espagne qui dit « Quand la France éternue, la moitié de l'Europe s'enrhume. Nous devons faire attention ». À Madrid, Romain Lucquiens, Julie Pietri, France Inter.
En Espagne, où les électeurs votaient aussi pour les élections municipales, et le pari perdu de Manuel Valls, qui arrive en 4e position avec 13% des voix à Barcelone, élection remportée par le candidat de la gauche indépendantiste catalane. Les socialistes grecs, eux, sont à la peine. Le parti d'Alexis Tsipras est lourdement sanctionné. Le Premier ministre se voit contraint d'organiser des élections législatives. À noter également la victoire du parti pro-Brexit de Nigel Farage en Grande-Bretagne et la belle progression des Verts en Allemagne, deuxième force politique après la CDU-CSU. Et puis les 751 nouveaux députés européens se retrouveront pour la première fois le 2 juillet. Tous les résultats de ces élections sont à retrouver bien sûr sur franceinter.fr. Et puis rappelons les invités, les premiers invités du 7-9 de France Inter ce matin. Dans un instant, l'écologiste Yannick Jadot et le socialiste Olivier Faure.
Il est 7h11, Agnès. L'actualité ce matin, c'est aussi un bouleversement dans le marché de l'automobile.
Renault devrait annoncer dans les prochaines heures un rapprochement inédit avec l'italo-américain Fiat Chrysler, ce qui ferait de la nouvelle entité le numéro 1 mondial du marché de l'auto, avec 15 millions de véhicules vendus chaque année contre un peu moins de 11 millions pour Volkswagen. L'objectif de ce rapprochement, Manuel Ruffez, faire face aux défis technologiques de demain.
Rapprochement, alliance, voire fusion, personne ne sait encore comment qualifier la nouvelle entité qui semble se profiler. Une chose est sûre, le géant automobile né de ce rapprochement deviendrait le numéro 1 mondial sans contestation possible. Et l'idée est bien là, s'allier pour faire face aux évolutions technologiques de demain, les nouvelles normes d'émission, les moteurs électriques ou encore la voiture autonome. Renault, pionnier dans l'électrique avec la Zoé, apporte dans la corbeille son expertise, ainsi que grâce à Nissan, une ouverture vers le marché asiatique. Fiat Chrysler, de son côté, lui ouvre le marché américain, avec cette impérieuse nécessité de consolider le secteur, disait samedi sur France Inter Jean-Dominique Senard, le président de Renault.
Nous sommes aujourd'hui, et c'est fondamental, dans une période de grande turbulence dans le monde automobile. On est devant des choix considérables, qui vont nécessiter des investissements eux-mêmes considérables. Nous n'avons pas trop de temps. Nous avons un énorme enjeu devant nous et c'est vers cela que j'aimerais orienter les attentions.
Bien des questions restent encore en suspens. Évidemment, la réaction d'abord de Nissan, l'allié japonais de Renault, le temps nécessaire à une telle fusion, entre 8 et 12 ans selon les experts, et enfin la réaction des autorités de la concurrence.
Enfin, le tournoi de tennis de Roland-Garros avec les premiers qualifiés pour le second tour. Ça passe pour Roger Federer. Gros succès hier pour le Suisse. Les tricolores Nicolas Mahut et Kristina Mladenovic aussi se sont imposés. À suivre aujourd'hui l'entrée en lice dans le tournoi de Rafael Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams et Joe Wilfried Tsonga.
Merci Agnès Soubiran.